France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Est-elle réellement, spécifiquement française ? Ou n'est-ce que prétention de notre part ? Est-elle autre chose que courtoisie, que séduction ? Où est-elle née ? Dans les salons, sans doute. Existe-t-elle encore ? À vous de vous faire un avis. Lieu de mémoire, la galanterie française.
Lieu de mémoire, la galanterie.
Mario et Christine, la galanterie, qu'est-ce que c'est pour vous ?
C'est de me laisser parler d'abord. la galanterie, c'est... J'ai plein de paquets. Un homme charmant, bien sûr, m'ouvre la porte, parce que si c'est pas charmant, il m'ouvre la porte, mais il ne porte pas mes paquets, parce que sinon je perds mon indépendance. À toi, Mario.
Mario.
La galanterie, c'est un instrument nécessaire.
Vous, est-ce que vous vous permettez d'être galante ? Est-ce que c'est possible pour une femme
d'exercer
la galanterie ?
Ah, d'exercer la galanterie
un homme ?
Alors, envers un homme.
La question est très bonne.
J'en sais rien. Je ne sais pas. La question est bonne, effectivement.
Une émission de Marie-Christine Navarro, réalisée par Marie-Christine Closet.
Jean-Pierre, la galanterie, qu'est-ce que c'est pour vous ?
Moi, je pense que c'est une vaste hypocrisie, tout simplement. Moi, si j'étais une femme et qu'épisodiquement, comme ça, de temps en temps, irrégulièrement, mon mari m'offrait des fleurs, je trouverais ça suspect.
Julia Kristeva, la galanterie pour vous, qu'est-ce que c'est ?
Ah, beaucoup de choses. D'abord, c'est lié à la France. Je crois que dans le monde entier, un homme galant, le comportement galant, fait penser à la tradition française. Ensuite, notre adjectif qui me vient à l'esprit en entendant le mot galant, c'est archaïque. On n'en trouve plus. Et puis, c'est un érotisme sublimé. C'est le mélange de l'érotique et du tendre, de l'attention à l'autre et de la générosité. C'est toute l'alchimie de la passion raffinée.
Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite.
Il est intéressant aussi de remarquer la dissymétrie de la galanterie dès le départ. La galanterie est l'affaire d'un homme. Si une femme est galante, c'est pas bon signe. La femme galante ou la fille galante, ce sont des filles publiques, hein, ou des filles de mauvaise vie. Tandis que l'homme galant, c'est au contraire une qualité.
Et si une femme est galante avec toi, comment est-ce que tu réagis ?
Ça me ferait rire. Ça me ferait beaucoup rire, parce que je vois pas en quoi une femme peut être galante à mon égard.
Pourquoi pas ?
En m'ouvrant la porte.
Par exemple ?
Ça serait drôle.
Il n'y a pas que d'ouvrir des portes, hein, mais...
D'ouvrir à la suivante, sans doute.
Une femme qui t'enverrait des fleurs, par exemple.
Je serais très touché. Je trouverais ça très... C'est pas fréquent, je pense, qu'une femme envoie des fleurs. C'est pas dans les règles, c'est pas dans les coutumes.
Christine, tu as déjà envoyé des fleurs à un garçon ?
Ah oui, bien sûr, mais je les envoie pas, je les donne. C'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Michel Perrault.
Et voir déjà la dissymétrie des mots indique la dissymétrie des positions. Dans la galanterie, l'homme est actif et conquérant, même si la caractéristique de la galanterie, c'est justement de mettre les armes au vestiaire. C'est de transformer les armes de la conquête en gestes de courtoisie et en mots élégants. Il y a là une mutation tout à fait fondamentale qui est le signe même de la galanterie. Mais dans cette interaction qu'est la galanterie, car les femmes ont un rôle à jouer dans la galanterie, la femme est tout de même au point de départ l'objet. C'est elle qu'on veut conquérir. Et c'est elle qui se laisse approcher, plus ou moins, ou qui tient ses distances. Autrement dit, dans les pratiques, l'homme est actif et la femme est plus passive. Non pas qu'elle ne soit pas active, la femme de la galanterie, mais son activité est plus pudique, plus réservée et moins visible. À la limite, s'il y a galanterie, c'est que les femmes ont su tenir les hommes à distance.
Que dessinez-vous là ?
Un lac, le lac d'indifférence. Ses eaux sont troubles, on s'y perd.
Et sur la gauche de Nouvelle Amitié, quels sont les périls ?
Trop à gauche, on tombe sur indiscrétion, perfidie. Ce haut rocher, ce sera l'orgueil. Et encore deux villages, médisance et méchanceté. Au lieu de tomber à tendre, sur reconnaissance, on plongerait dans la mer d'inimitié. Les vaisseaux y font tous naufrage.
Et votre rivière Inclination, où se jette-t-elle ? Vers le nord ?
Dans la mer dangereuse qui s'étend sur tout le haut de la carte. Et de l'autre côté de cette mer, tenez, je trace un bout de terre.
Que vous nommez ?
Les terres inconnues.
Entre courtoisie et séduction, stratégie érotique et sublimation du désir, la galanterie est sans doute aujourd'hui pour les Français le fragment d'un discours amoureux désormais en miettes et toujours à réinventer. Toutefois, elle demeure encore pour le regard de l'étranger comme la survivance d'un art de vivre et d'aimer qui serait une des spécificités des mœurs françaises et des relations ô combien raffinées, à la fois cruelles et ambiguës, que les femmes et les hommes de ce pays ont entretenu pendant des siècles. Théodore Zeldin, historien anglais amoureux de la France et spécialiste de ses passions, nous rappelle les origines et les vertus civilisatrices de ce que fut cette carte du tendre hexagonal.
On a raison de croire que c'est une idée française et les Anglais ont toujours cru que c'est une idée française. Mais je crois que pour bien situer cette idée dans un contexte historique, il faut commencer avec les Arabes, oui. Comme on fait souvent avec les questions qui ont des relations avec l'amour. Les Arabes ont inventé une forme d'étiquette très cérémonieuse, très délicate, qui s'appelle adib. Et c'était entre hommes, mais c'était une façon d'être très courtois et de essayer de donner aux relations humaines un cachet intéressant. Mais enfin, l'idée importante que je voudrais vous soumettre, c'est que la galanterie représente une étape dans la pacification des relations entre les hommes et les femmes, mais une étape qui n'a pas fonctionné parfaitement et qu'on doit savoir transcender. Le but, c'était de rendre les hommes moins brutaux, moins méchants, moins agressifs. Et les hommes, certains hommes, ont eu cette idée que les femmes pouvaient les domestiquer, pouvaient les rendre plus agréables.
Par l'esprit.
Oui. Et l'idée qu'on doit être courtois envers les femmes qui étaient, jusqu'à cette époque, considérées comme plus bas dans l'échelle sociale, c'était une révolution que certains hommes ont essayé pour se libérer de cette guerre entre les hommes.
Alain Rey, galant homme et non point homme galant, linguiste et spécialiste de l'histoire de la langue française, démystifie fort à propos l'étymologie du mot même de galanterie, qui a fort peu à voir, comme le crurent longtemps les esprits chagrins d'un patriotisme étroit, avec le radical gal de Gaulois.
par les connaissances actuelles, nous savons maintenant avec certitude que c'est un mot germanique. C'est un mot qui vient d'un radical francique, donc arrivé avec les Francs au Moyen-Âge en latin des Gaules, et qui est, qu'on peut reconstituer sous la forme Walla, le W germanique donnant presque toujours un G en français, un G, qui veut dire bien, excellent. Et c'est tout simplement l'anglais well qu'on retrouve par ce radical. Le francique avait un verbe wallen qui voulait probablement dire s'élancer, jaillir, bouillonner et figurément avoir une activité ludique ou une activité du genre gaillardise. Alors il s'est passé une chose assez curieuse, c'est que ce radical germanique est devenu finalement un bien pour les langues romanes. Il est passé en français, donc sous la forme galant, mais il est passé aussi en provençal, sous la forme du verbe se gala, d'où est venu plus tard l'espagnol gala, que nous avons réemprunté plus tard. Et le galant, la galanterie, en relation assez étroite avec l'italien, puisqu'il y a galante à peu près à la même époque, ont finalement créé ces sortes de cristallisations dont Stendhal parle pour les sentiments et qui sont vrais aussi pour les mots. Et c'est au XVIe et au XVIIe siècle que les choses se sont passées. Et au XVIe siècle, je pense sous l'influence de l'italien d'ailleurs, et vraisemblablement de l'occitan provençal, on est tombé dans cette référence à un érotisme socialisé que l'on retrouve dans les Dames galantes de Brantôme, par exemple.
De l'amour courtois à la carte du tendre de Mademoiselle de Scudéry, avec Michèle Perrault, historienne, coordonnatrice avec Georges Duby d'une histoire des femmes en Occident, de l'Antiquité à nos jours.
Si on voit comme ancêtre de la galanterie l'amour courtois, ce que beaucoup d'historiens pensent, ils pensent que la première expérience de la galanterie a été l'amour courtois. Duby dit que l'amour courtois vient du fait que les femmes de la noblesse, puisque c'était les femmes des chevaliers, ne se laissaient plus imposer l'amour aussi facilement et qu'elles mettaient de la distance vis-à-vis de ceux qui, en l'absence de leur mari, partis au loin, cherchaient à les conquérir. Et par conséquent, l'amour courtois est une stratégie imposée par les femmes aux hommes et qui leur demande de mettre des formes. Nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des personnes qui nous laissons imposer une forme de sexualité, de rapport sexuel que nous ne voudrions pas. Et puis nous voulons des mots, nous voulons de la tendresse, nous voulons des poèmes, nous voulons un culte même à la limite. Et parfois même aucune consommation, car l'amour courtois comme la galanterie ne sont pas l'amour. En général, même, il reste aux portes de l'amour. C'est un amour souvent inaccompli, qui ne va pas jusqu'à la possession. Et plus l'amour courtois et la galanterie sont réussis vis-à-vis des femmes, peut-être pas toujours pour les hommes, c'est justement quand ils maintiennent cette distance. Et c'est pourquoi Mademoiselle de Scudéry et la carte du tendre, ou la guirlande de Julie d'Angennes, qui était la fille de la marquise de Rambouillet, qui dans tout cela a joué un très grand rôle, eh bien, on voit qu'elles mettent des distances infinies, au point que l'amour ne se réalise même pas. Ce qui les intéresse, c'est le chemin pour y arriver.
Christine, est-ce qu'une femme peut être galante ?
Redéfinissez-moi la galanterie. Oui, pourquoi pas, mais à ce moment-là, je crois que c'est... En fait, la galanterie, moi j'ai l'impression que, bon, comme disait Mario, c'est quelque chose qui est un instrument envers un objectif de séduction, donc d'instauration d'un rapport X ou Y. Peut-être X d'ailleurs. Mais la galanterie, si une femme peut être galante, je crois que ça se situe sur un autre plan que celui de la galanterie dans le genre « je suis un homme, tu es une femme faible, je vais te porter tes paquets, ouvrir la porte, etc. » On lui ouvre la porte, certes, mais c'est pour mieux l'enfermer. Peut-être, est-ce que je vais trop loin? Mais bref, donc...
Mais toi, est-ce que tu aimes qu'un homme soit galant à ton égard? Ou est-ce que ça t'agace?
Je dois dire, je vais être complètement macho, mais ça dépend qui. Bon, c'est comme ça.
Moi, ma galanterie est déjà plus désintéressée. Ouais. Je peux être galant avec n'importe qui, ça m'est égal. J'arrive très, très difficilement à être galant, justement, quand ce rapport très sexué, en fin de compte, s'installe. Je perds les pédales. Si je vois une belle fille et je lui cède le passage, je me sens bête, en fin de compte. Je me sens presque comme machiavélique, en fin de compte. Alors que j'arrive plus facilement à être galant avec une vieille dame, enfin avec une dame ou tout autre.
Ce que je préférerais, c'est effectivement que chacun fasse attention à l'autre, que ce soit un homme ou une femme. Je sais par exemple, bon, j'ai pas mal de copains qui sont très galants avec moi, qui allument, qui sont toujours là avec leur briquet lorsque je sors une cigarette de mon paquet. Mais au bout d'un moment, ça m'horripile. Parce que j'ai l'impression de ne plus pouvoir faire mes mouvements à moi. Un peu, c'est bien, mais trop, ça m'énerve.
Au bas de la carte, une ville. Ce sera Nouvelle Amitié.
Et tendre.
La rivière Inclination y mène tout droit. Là, au milieu, un peu vers le nord, tendre sur Inclination. Et puis à gauche...
À l'ouest.
Tendre sur Reconnaissance. Et à l'est, tendre sur Estime. Sur des rivières horizontales qui portent le même nom.
Tendre sur Inclination, sur Estime, sur Reconnaissance. Comme on dit cum sur la mer d'Ionie ou cum sur la mer tyrrhénienne.
Pour aller de Nouvelle Amitié à Tendre, il n'y a qu'à se laisser porter par la rivière Inclination. On ne trouve pas un bourg sur ses bords. Mais pour tendre sur Estime, il faut prendre une autre route qui passe en pleine terre. À droite. Voilà. Elle sera jalonnée de petits villages, un pour chacune de ces choses qui font naître la tendresse. D'abord, grand esprit. Vous me suivez?
Très bien, parfaitement.
Oui, certainement.
Quelles sont les opérations les plus ordinaires de grand esprit dans le commencement d'une amitié?
Joli vert.
Billet galant.
Billet doux.
Voilà qui est bien. Et puis, sincérité, grand cœur, probité, générosité, respect, exactitude et bonté.
Qui est tout contre tendre, dirait-on.
Et la voie pour gagner tendre sur Reconnaissance.
La galanterie, au sens littéraire du terme, c'est-à-dire ce sens qui a été extrêmement important au XVIIe siècle, qui est en relation avec la préciosité un peu plus tard, qui est en relation avec les activités romanesques tout entières, la galanterie joue un rôle considérable. Et ça n'est pas par hasard qu'on continue à parler, de manière d'ailleurs peu observable dans la réalité à la fin du XXe siècle, de la galanterie française.
Alors comment est-ce que la femme est considérée dans cet exercice, dans cette approche par rapport au rituel galant?
Alors d'abord, la femme devient un acteur extrêmement important, c'est-à-dire que en matière de roman galant, le couple d'auteurs, couple parfaitement honnête et fraternel d'ailleurs, ce sont les Scudéry, le frère et la sœur. Et très souvent, Scudéry, l'homme, Georges, signe les romans dont tout le monde à l'époque savait qu'ils avaient été en très grande partie écrits par sa sœur Madeleine. Madeleine de Scudéry est en fait probablement l'écrivain le plus écrivain du XVIIe siècle. La galanterie donc du XVIIe siècle s'illustre très bien dans Le Grand Cyrus, et puis naturellement la Clélie, dans laquelle on trouve cette fameuse carte du tendre, qui n'est d'ailleurs qu'un exemple parmi d'autres, c'est le seul qu'on a gardé, de la spatialisation d'une certaine représentation mentale. Et il y a même eu des cartes de la galanterie, explicitement. Et
ça, un parcours.
C'est-à-dire un parcours, c'est-à-dire une représentation comme une sorte de pays imaginaire qu'on peut visiter. Et je pense que c'est ça, un des intérêts de la galanterie, en tant que mouvement esthétique et éthique, moral, c'est d'abord, et on partait de là, donner une importance nouvelle à la femme, d'abord comme objet de respect à l'intérieur même de l'érotisme, ce qui en fait ne fait que reprendre le programme courtois, et d'autre part, de donner à la femme un rôle qui est encore bien plus important, qui est celui d'acteur du mouvement esthétique et éthique. À tel point que quand Molière s'en prend à la préciosité et à la galanterie, et c'est explicite dans Les Précieuses Ridicules, il y a une scène entière qui est consacrée au concept de galanterie, ce sont les précieuses ridicules et pas les précieux ridicules qui sont visés.
Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont il devient amoureux, ou bien être conduit fatalement chez elle, par un parent ou un ami, et sortir de là, tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé et cependant lui rend plusieurs visites où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivi d'un prompt courroux qui paraît à notre rougeur et qui, pour un temps, bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine.
L'idée centrale de la galanterie, c'est de plaire.
Théodore Zeldin.
Et quand vous dites plaire, ça veut dire faire des remarques agréables, un peu routinières. C'est-à-dire prendre des formules.
Des figures de style.
Exactement.
Des métaphores.
Exactement. Et ça donne une situation qui est amusante. C'est comme on jouait en tennis. On joue, c'est agréable de jouer, mais ça ne donne pas grand-chose. Et c'est aussi un moyen d'éliminer la passion entre les hommes et les femmes et de transformer cela en commerce d'esprit, où le cœur et les sens ne prennent pas part. C'est seulement un jeu mental.
Et c'est pour ça qu'il n'est pas entièrement satisfaisant.
Exactement, c'est une moitié, je dis c'est une étape. Il y a une pacification, on commence à découvrir que les femmes peuvent contribuer à la société de façon très importante.
Et l'étape suivante serait laquelle alors?
L'étape suivante, ce serait le rejet de cela, qui s'est fini à la Révolution, parce que beaucoup de gens ont réagi très fortement. Rousseau, par exemple,
était contre.
Rousseau disait que c'est le contraire du sentiment. Et Madame de Staël disait que c'était la bassesse. Et Montesquieu, que c'était le contraire de la loyauté. Que c'était, il avait une phrase, c'était le mensonge de l'amour.
Oui, c'est une sorte de stratégie.
Exactement. Où tout le monde, il y a d'autres écrivains qui disent, voilà, c'est un jeu où tout le monde triche. Une parodie de l'amour, un libertinage. Et voilà, il y a toutes ces attaques contre cela, parce que quand les gens jouent ce jeu, ça devient seulement un jeu.
Madame mia, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo è che ho fatto io, osservate,
leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna son già 1003, 1003.
Je pense que la galanterie, ce qui a été codé comme tel dans l'histoire de notre civilisation, correspond à quelque chose de spécifique à la sexualité féminine et peut-être au féminin de l'homme.
Julia Kristeva.
Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense que les êtres féminins, comme les êtres masculins, sont complexes, mais si on isole le féminin chez la femme, commençons par cela, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que non seulement on a besoin d'un érotisme qui est ambigu, tendre et violent de toute façon, mais on a besoin de ce que nous appelons en analyse l'inhibition de la pulsion quant au but. C'est-à-dire que la relation érotique ne se réalise pas forcément dans un acte qui est positif ou négatif, tendre ou violent, mais c'est l'acte érotique de toute façon. La pulsion érotique ne se réalise pas uniquement dans l'acte, elle peut être différée, elle peut être freinée, pas forcément inhibée, pas refoulée, pas censurée. Elle peut être différée en ce sens qu'elle s'apaise, elle cherche des formes qui ouvrent vers le sublime. Ces formes peuvent être quoi ? Ça peut être la tendresse pour un enfant, ça peut être la caresse entre hommes et femmes, ça peut être le mot. La parole advient dans cette différence de l'érotisme.
Et du côté masculin, alors ?
Et alors, du côté masculin, dans la mesure où l'homme a une part féminine, eh bien, il va dans cette direction aussi. Une partie de la sexualité masculine n'est pas seulement la sexualité agressive, le macho qui fonce, qui est conquérant, qui est dominateur, qui ramasse des femmes, qui fait mille traits comme Don Juan, etc. Il a la nécessité de cette différence de la pulsion aussi. C'est le féminin de l'homme, je crois, qui s'exprime là-dedans. D'ailleurs, quand vous voyez les codes de galanterie, ils existent au Moyen-Âge à travers les troubadours et la courtoisie. Ils existent dans la cour de France, autour de Versailles, etc. Mais ce sont partout des époques où quelque chose du féminin a été reconnu.
La galanterie culmine à la fin du XVIIIe, à l'époque des Lumières.
Michel Perrault.
À ce moment-là, on en devient très conscient. Il y a un article de Diderot dans l'Encyclopédie où il montre que la galanterie n'est possible que justement dans un certain état de civilisation. S'il y avait sauvagerie des mœurs, la galanterie ne serait pas possible. Le modèle de cour a été un modèle extrêmement fort du point de vue du prestige social. Et on peut même dire qu'il a été imité alors même que la vie de cour avait disparu. Culturellement, c'est souvent dans les classes populaires qu'alors même que la vie de cour avait disparu, on a reproduit des formes de courtoisie. Et être un homme bien élevé dans les classes populaires, c'est souvent faire presque plus longuement sa cour à une fille qu'on ne le ferait dans la bourgeoisie du même temps. Par là-dessus arrive la Révolution et le XIXe siècle. Le XIXe siècle va instaurer un tout autre rapport entre le privé et le public. Les salons vont perdre énormément d'importance.
Les femmes aussi, d'ailleurs.
Les femmes aussi. Les femmes ne perdent peut-être pas d'importance au 19e. Elles sont très importantes. Mais autrement, elles le sont dans le privé, elles le sont dans la famille.
Elles sont plus sur la scène politique.
Elles ne sont plus sur la scène politique publique, en tout cas, qui était quand même la cour et les salons. Et par conséquent, la galanterie n'est plus véritablement un mode de rapport entre les hommes et les femmes. La galanterie va devenir une coquille vide. Ça va devenir simplement des mots, des gestes de plus en plus superficiels, ouvrir une porte, faire asseoir une femme, lui dire des compliments. Mais ça n'a plus grand-chose à faire avec la cour, même faire sa cour à une fille, quand le mariage devient le centre de la société, la cour dure à peu près 2 mois, n'est-ce pas ? Et puis arrive le mariage, et à ce moment-là, le mari est plus ou moins maître du corps et du cœur de sa femme, et c'est tout autre chose. Et la galanterie est éliminée des rapports conjugaux. Encore qu'il y ait des hommes civils qui, justement, voudraient que la galanterie continue dans le mariage. Heureuses sont les femmes qui ont des maris galants, dit-on au XIXe siècle.
La personne suivante.
C'est vous, monsieur le directeur de cet hospice ?
Oui, madame, parfaitement, et je vous attendais.
Vous m'attendiez ?
Oh, impatiemment, madame, car si vous êtes étrangère à la France, vous n'êtes pas étrangère à l'idée qui m'est venue un soir de fonder cet hospice. Non ? Nous dînions l'un en face de l'autre, et ce soir-là, je vous ai vue nerveuse, angoissée, au sujet de ce décret-loi.
Ah, c'était vous ?
Oui, c'était moi.
Mais oui, je retrouve ce regard insistant.
Si vous avez exaspéré, madame, excusez-moi, mais ce soir-là, s'il m'était difficile de vous regarder plus, il m'était impossible de vous regarder moins. C'était mon droit, d'ailleurs.
Oui, mais vous en abusiez.
Comme vous abusiez du droit de me séduire.
Moi, je vous séduisais ?
Non, mais oui, par exemple.
Oh, mais est-ce que c'était ma faute ?
Est-ce que c'était la mienne ?
Admettons que vous m'avez trouvé bien. Vous n'avez pas le droit de me crier haute voix.
Je n'ai pas commencé, j'ai répondu.
Est-ce que je vous ai questionné ?
Vous ? Mais vous ne faites que ça. Oh. Vos yeux, vos mains, vos bras, vos épaules sont autant de questions posées. Et votre dos lui-même est interrogatif. Les couleurs que vous portez ne hurlent pas, mais elles parlent, elles s'inquiètent. Et vos robes s'informent. Et vos cheveux sont comme un cri. Et votre allure est éloquente. Et ce chapeau n'est qu'une question que vous vous êtes posée à vous-même au bord de l'œil. Et à laquelle je dois répondre, oui, madame, il vous va très bien. Et vous n'allez pas me dire que ça vous étonne d'être regardée alors. Vous avez toujours l'air d'être venu pour vous montrer.
Jacques Assoun, vous êtes psychanalyste et écrivain. Je rappelle pour mémoire un de vos livres qui portait sur les passions, paru chez Aubier, Les passions intraitables, précisément, où vous réfléchissiez sur l'espace propre à la passion. Et je dirais que l'espace de la galanterie est pratiquement diamétralement opposé à celui de la passion.
Oui, absolument. Vous savez... Pour moi, la passion, c'est l'espace même de la sauvagerie, de l'ensauvagement radical. Dans une passion, il n'y a plus ni galanterie, ni politesse, ni même amour. Il y a tout simplement le désir fou de posséder l'autre. C'est en fait une entreprise d'assujettissement réciproque.
Et à la galanterie ?
À la galanterie, c'est juste à l'opposé. La galanterie, c'est un temps assez exceptionnel et une situation assez exceptionnelle où l'on accepte de s'effacer devant l'autre. Voilà. Hein. Vous savez, il y a des pays où, par exemple, vous arrivez devant une porte, on vous bouscule, on ne vous dit pas « pardon ». Par contre, la galanterie, c'est tout autre chose. Je voudrais, tout à coup, je me dis que j'ai envie de vous raconter une petite anecdote qu'a rapporté Roger Icor dans Les Eaux Mêlées. Évidemment, ça se passe plus comme ça actuellement. Il parle d'une manifestation de croix de feu. Et les croix de feu, donc, descendaient la rue des Rosiers dans une manifestation antisémite. Et une vieille femme affolée, vieille juive affolée, tombe. Et un des croix de feu la relève et la remet sur le trottoir.
Oui, mais alors dans ce que vous me dites...
Enfin, ça c'est une parenthèse.
Dans ce que vous me dites, moi ça me renvoie à un autre proverbe qui est « trop poli pour être honnête ». Vous venez de parler de l'ensauvagement de la passion. Mais on peut être fort galant, vous venez de citer l'exemple, et en même temps être un barbare.
Absolument.
La galanterie suppose aussi parfois une certaine cruauté dans certaines de ses formes.
Oui, alors là, nous nous trouvons
dans les rapports entre hommes et femmes. Est-ce qu'il y a simplement la distance de la politesse et la distance de l'accès à l'autre ?
C'est le cas de figure de Sade que vous êtes en train de décrire. Hein ? Je pense que l'hommage qu'il rend aux femmes, l'hommage que les Sadiens rendent aux femmes... est souvent d'une immense galanterie et d'une férocité tout à fait remarquable.
De crainte de vous fâcher, il faut donc que j'avoue tout.
Vous en doutiez?
Oui, bien. Ma tante a de la société au château en ce moment. Elle y reçoit une jeune personne de ses amis. Une madame de Tourvel. Je ne puis vous croire.
Quoi, séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage? Baste, que puis-je espérer de plus prestigieux?
Je trouve quelque peu dégradant d'avoir devant soi un mari pour rival. C'est humiliant si l'on échoue et tristement banal si l'on réussit. À propos, où est Monsieur de Tourvel?
En Bourgogne, où il préside les débats d'un procès interminable.
N'espérez pas obtenir un quelconque plaisir de cette aventure.
Au contraire, sachez-le, je n'ai point l'intention de briser aucun de ses préjugés antiques. Je veux qu'elle se cramponne à son Dieu, à la vertu et à la sainteté du mariage, tout en étant incapable de dominer son cœur. Je veux goûter le suprême bonheur de la voir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Vous comprenez cela, je le sais. Car le mot trahison est de vos favoris.
Non, non. Cruauté. Quel mot a autant de noblesse que celui-là?
Pour moi, la vraie galanterie, c'est celle qui laisse un espace à l'autre, qui lui permet de recevoir ou de ne pas recevoir cette politesse-là. Voilà.
Quand vous dites l'autre, en l'occurrence l'autre, c'est en général la femme. Oui. Et c'est l'homme qui est galant. Donc est-ce que ce n'est pas une ruse pour masquer un assujettissement en différence?
Écoutez, oui, oui, mais quand même, enfin je veux dire, y a-t-il une relation entre un sujet et un autre, entre une femme et un homme, sans qu'il n'y ait un tout petit peu de ruse, hein? Il y a de la ruse, autrement, il me semble que... Toute relation serait transparente. Or, nous savons à quoi a pu mener la transparence au cours des 30 dernières années. La transparence est
impossible.
Est féroce. En fin de compte, la transparence est féroce. La transparence, c'est comme ces couples qui veulent tout se raconter, tout se dire.
Qui a peur de Virginia Woolf?
Voilà, voilà. Hein, ou par exemple ce que Simone de Beauvoir raconte de ses relations avec Sartre.
Absolument. Hein,
où il se racontait tout. Or, se dire la vérité est, à mon avis, une muflerie immense. Et d'une muflerie immense, c'est un manque de galanterie absolue. La galanterie voudrait qu'il y ait du silence.
Il y a aussi, sous-jacent à ce que vous dites, une notion de sacrifice. Enfin, c'est-à-dire que dans l'amour courtois, d'où est issue la galanterie, il y a le sacrifice de quelque chose dans ce rapport.
Vous savez bien que le parcours du courtois, qui va partir pendant des années à la conquête de cette femme, et au bout du compte, lorsqu'il la retrouvera enfin nue, il la verra de dos. C'est un sacrifice, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie, je pense, de cette dimension de jouissance étonnante qui existe dans l'amour courtois, hein, qui est une jouissance qui fait l'économie, dirais-je, du charnel, du physique, du corps, dans son sens le plus réel, pour privilégier justement l'aventure intellectuelle que la galanterie suppose. C'est une aventure intellectuelle, toujours, toujours.
Nous parlions d'un...
Baiser. Le mot est doux, je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera-ce la chose? Ne vous en faites pas un épouvantement. N'avez-vous pas tantôt, presque insensiblement, quitté le badinage et glissé sans alarme du sourire au soupir et du soupir aux larmes? Glissez encore un peu d'insensible façon, des larmes au baiser, il n'y a qu'un frisson.
Taisez-vous.
Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer, C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleur, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme.
Taisez-vous.
Roxane et Cyrano, Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand.
Draguer, c'est pêcher. Premier sens, c'est racler les fonds, c'est pêcher des coquillages. C'est des moules et des huîtres, des coquillages inertes, béants. Deuxième sens, chercher à coller les jeunes filles. Mais disons que la femme n'est pas un poisson et toute la différence est là.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut?
Alors Bernadette, qui est en train de manger une petite tartelette,
oui,
et qui est une adepte du thé dansant de la Coupole.
Oui, c'est vrai.
Comment ça se passe ici? Vous êtes assise là?
Je suis assise toujours à la même place. Et puis j'attends que le cavalier vienne m'inviter. Des fois il arrive, des fois il n'y a pas. On est obligé de danser entre dames. La valse, c'est le passo doble. Monsieur.
Et vous arrive d'être invité par quelqu'un que vous connaissez?
Oui, j'ai des habitués qui viennent régulièrement m'inviter à faire une danse ou deux, ça dépend.
Est-ce que dans ces 13 ans, vous avez vu des changements dans la façon dont les hommes abordent les femmes?
Ah oui, beaucoup. Surtout les femmes qui abordent les hommes.
C'est-à-dire?
C'est surtout les dames maintenant qui vont pour chercher le cavalier. Parce que l'homme, il hésite un peu. Des fois, ça se passe bien, et puis des fois, ben non. On dit, oh là là, celui-là, il frotte de trop.
Et quand vous venez ici, vous aimez inviter les dames ou vous aimez qu'on vous invite?
Moi, j'adore séduire, moi. Séduire une femme. Je viens ici pour séduire, moi. Pas forcément pour draguer, ni pour... Mais je viens ici pour séduire une femme. Ça, c'est dans mon tempérament. Moi, j'adore ça.
Et comment vous faites?
Oh, madame, écoutez, il faut d'abord danser. Tenez, vous voyez, il y a une musique qui est tout à fait de circonstance. Il y a des femmes à séduire, là. Enfin, aujourd'hui, pas tellement, quand même.
Comment est-ce que vous repérez ça?
Ah, c'est physique, moi. D'abord, physique. Ben oui, bien sûr. Il faut qu'une femme soit comme vous, avec des grands cheveux noirs, longs. Et puis, à partir de là, elle a beaucoup de chance, cette femme-là. Si elle n'a pas de grands cheveux, elle n'a pas beaucoup de chance.
Avec vous?
Avec moi, bien sûr.
Ils font le tour de la salle et ils regardent, ils disent aujourd'hui, il n'y a rien.
Je suis connu ici quand même, hein. Il faut l'admettre aussi. Hein. On sait que je suis un bon danseur, on sait que je suis correct, en général je suis correct avec les femmes. Mais il y a eu des victimes hein, quand même, il y a eu des femmes qui ont été victimes de mon charme, ça c'est vrai.
J'ai un piège à fille, un piège tabou. Un joujou extra qui fait crac boum hu. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait crac boum hu. Crac boum hu.
Dire des belles choses aux femmes, ça ne suffit pas. Seulement, avoir un commerce d'esprit, ça ne suffit pas. Ce jeu de mots doit être étendu pour que on écoute ce que les femmes ont à dire et qu'on essaye de se connaître mieux. Pour moi, ce qui est essentiel dans notre société actuelle, c'est que les hommes et les femmes essayent de se parler, et c'est là que se passe la plus grande révolution depuis longtemps, c'est-à-dire une moitié de l'humanité entre en relation avec l'autre moitié et essaye de se comprendre. Peut-être il faut dire aussi que la galanterie ne peut se développer que quand il y a le loisir. Et maintenant, nous avons une société de loisirs, mais souvent sans le temps. Et pour parler, il faut du temps. Et ça, c'est notre problème. Si on est bousculé, il n'y a pas le temps d'être galant, il n'y a pas le temps d'avoir des conversations, ni de réfléchir. Ça, c'est notre problème.
Eh bien, je vous remercie. Nous nous quitterons sur cette question du temps.
Merci, je vous félicite de vous occuper des choses intéressantes.
mode d'emploi de l'Europe.
Si.
Où trouver le séducteur de l'Europe? Pas à Milan qui travaille et spécule, pas à Rome même qui somnole et ne rêve pas de ses exploits fracassants. Et si nous allions dans la plus belle des baies du monde, dans la plus petite des grandes stations, Amalfi?
Entre nous, là, entre nous.
Ah oui.
Il y a beaucoup d'étrangères, hein, ici, oui. Beaucoup de femmes qui viennent de tous les pays du monde. Quelles oh, oui. sont les femmes les plus faciles, entre nous?
Les femmes plus faciles, c'est l'Allemagne. L'Allemagne et la Suédoise.
Suédoise.
Oh, Suédoise, c'est très, très facile.
Pourvu de tels renseignements, nous n'avons pas tardé à découvrir le Don Juan d'Amalfi. Sans doute, il ne payait pas de mine. Vêtu d'un polo et d'un pantalon délavé, menu et le teint brouillé. Mais il avait dans la prunelle ce je ne sais quoi qui fascine les belles.
Alors comment ça se passe quand vous les voyez arriver? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous reconnaissez qu'elle va marcher?
Je la connais à la plage, je reste avec elle un petit peu, après je parle. Vous êtes français, vous êtes allemand, vous êtes anglais. S'il est français, je parle français. S'il est anglais, je parle anglais. Et s'il est allemand, je parle allemand. Vous êtes un Don Juan d'Amalfi. Il est bon quand il connaît beaucoup de langues.
Alors revenons à ce que vous disiez, aux ambiguïtés cette fois. En général, la galanterie s'exerce de la part d'un homme envers une femme dans ces rituels-là.
Oui, initialement, la galanterie est en effet l'attitude de l'homme qui renonce à une réalisation immédiate et qui se met à la portée d'une conversation ou d'un échange plus calme, différé en effet, plus apaisé avec la femme. Et à ce moment-là, le piège, ça consiste à dans le paternalisme. Je suis le galant parce que je déploie toute une stratégie pour mieux appâter la proie. Et donc je fais des concessions tout en ayant derrière la tête l'idée de capturer la victime. La galanterie pouvant devenir à ce moment-là un moyen. Et c'est souvent le cas dans les jeux érotiques, c'est dans les préambules qu'on est galant et on parvient finalement à ces buts. Mais de toute façon, pourquoi pas? Cela varie déjà énormément le code et cela donne toute une panoplie de générosité, de tendresse et d'attention
Ce que je voulais dire tout de même, c'est qu'il me semble que la galanterie pose la question de la différence des sexes. Et que cette différence des sexes masque quelque chose qui serait de l'ordre de l'inégalité.
Ah, tout à fait, tout à fait. Là où ça devient compliqué, c'est que sur l'inégalité se base une exploitation ou une domination. C'est-à-dire qu'on constate qu'on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes comportements, nous, hommes et femmes. Mais dans cette reconnaissance de la différence, il arrive un moment où l'homme s'approprie cette inégalité et impose un pouvoir. C'est là que les choses deviennent problématiques.
Écoutez, c'est une question que je me pose depuis de très nombreuses années. Ça fait à peu près 16 ans que je me rends deux ou trois fois par an en Amérique du Nord, soit au Canada, soit aux États-Unis. Et je me dis au fond, que risquent de perdre les femmes dans l'égalité absolue avec les hommes? Et perdent-elles quelque chose? Il n'y a qu'une femme qui peut dire ça. Est-ce qu'elles ont le sentiment de perdre quelque chose en partageant le montant d'un repas exactement, en partageant chaque café que...
Là, vous caricaturez.
À peine. Aux États-Unis, à peine. Or, il me semble que la galanterie met en évidence quelque chose, et vous m'y faites penser pour la première fois, quelque chose de très important, c'est-à-dire la dissymétrie radicale qui existe entre une femme et un homme. Je ne dis pas l'inégalité radicale, je dis la dissymétrie radicale de toute relation entre une femme et un homme, et de toute relation entre les humains. Hein. Il n'y a jamais d'égalité, parce que s'il y avait une égalité absolue, il y aurait une spécularité absolue. Hein. C'est une parfaite utopie, et c'est même insultant de considérer cela, c'est-à-dire l'égalité absolue. Ce qui est tout à fait important, c'est comment accepter l'autre, même le plus semblable, hein, même le plus semblable, comment l'accepter dans l'ensemble de ses différences, en n'arguant pas de ses différences pour l'éliminer. Parce que bon...
C'est là toute la question.
Hein, je m'efface devant quelqu'un parce que cela me fait plaisir.
Comment est-ce que vous réagissez si une femme agit comme ça avec vous? Ça vous est arrivé?
Ah, ça me donne un plaisir inouï. Ça me fait vraiment terriblement plaisir. À condition que me renvoie pas l'idée que je suis un vieillard cacochine devant lequel on devrait s'effacer, ce qui est vraiment, en général, un peu gênant pour la personne à qui ça arrive. Ou quand... Mais en général, je n'ai pas ce soupçon. Hein.
Et vous êtes galant?
J'essaye de l'être, oui. Oui, je crois. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you.
Diddly 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 dum, poop poop doop. Et vous, Michel Perrault, qu'est-ce que vous pensez de ces rapports entre hommes et femmes? Est-ce qu'ils vous semblent aujourd'hui plus rudes? Est-ce qu'on est dans un stade de régression? Ou au contraire, est-ce qu'on est dans un stade de métamorphose vers quelque chose qui serait à inventer?
Presque tout ce que vous venez de dire est vrai à la fois. La galanterie, quand elle subsiste, paraît surannée, voire ridicule. Les jeunes femmes, quand on leur baise la main, trouvent ça grotesque. La vieille galanterie d'autrefois est morte. Les hommes, parfois, surtout dans certains milieux rudes, s'autorisent de cela pour être plus durs, justement. Et on viole peut-être encore plus facilement une femme qu'autrefois. Il y a moins de défense. Les femmes circulent plus librement et du coup, les hommes se croient tout permis. Après tout, les femmes ont la pilule, elles sont supposées libérées sexuellement, on peut tout faire. Donc il y a en effet une brutalité qui menace particulièrement les jeunes filles et les adolescentes surtout à notre époque. Donc en effet, moins de protection et une brutalité accrue. Et de ce point de vue-là, la galanterie aurait joué un rôle pour défendre les jeunes filles d'aujourd'hui. D'un autre côté, il y a aussi une quête d'égalité plus grande et souvent réalisée, et par conséquent un plaisir partagé, car le plaisir ne peut se partager que dans l'égalité, me semble-t-il. Et puis, il y a des choses qui se cherchent, et je pense qu'en effet, nous sommes aujourd'hui dans une quête de nouveaux rapports amoureux, qui ne sont pas du tout réalisés et qui sont peut-être l'inconnu de cette fin de siècle. Hein. Il faut réinventer l'amour. Et comment est-ce que ça pourrait être autrement? Mais la galanterie n'est pas ce que je demande aux hommes. Et à la limite, elle m'agace quelquefois parce que je n'aime pas trop les hommes qui font des compliments exagérés aux femmes, qui disent que les femmes sont gentilles. Il me semble que la galanterie met les femmes en orbite comme un objet. C'est toujours les mettre dans un rapport inégal. Autrement dit, je préfère d'autres types de rapports avec les hommes, l'amitié, la camaraderie, l'amour, bien sûr. Mais dans la gamme des rapports qu'on peut avoir avec les hommes, la galanterie m'apparaît, j'allais dire, comme un objet archéologique.
Et est-ce que vous ne pensez pas que précisément la galanterie disparaît aujourd'hui parce qu'il y a des enjeux de pouvoir énormes après tout ce que l'on a appelé le mouvement féministe? Là où il y a enjeu de pouvoir, il n'y a plus de galanterie possible. Ou si?
C'est vrai parce que dans le féminisme, il y a eu une part, bien que ça a été un peu plus modulé les dernières années, mais il y a eu une grande part d'égalitarisme. Les femmes ont voulu, à travers le mouvement féministe, devenir des hommes, ce qui se comprend relativement parce qu'il y a tellement de retard économique et de reconnaissance, même au niveau des performances intellectuelles et professionnelles, que ce besoin d'égalité est légitime. Mais à partir de là, on a effacé les différences. Or, il n'y a pas de galanterie s'il n'y a pas de différence. Donc, il y a peut-être une forme de galanterie qui serait l'attention à l'autre, la gratification narcissique vis-à-vis de l'autre, dans laquelle les femmes sont supposées inventer autant que les hommes.
Et vous, on a fait preuve de galanterie à votre égard ?
Rarement, rarement, dans les relations privées, souvent, mais sur le plan social, professionnel, je ne pense pas avoir été une gâtée. Comme j'ai dit, dans Possession, moi je me trouve pire que Simone de Beauvoir, pas une femme flouée, une femme décapitée. Je crois que j'ai subi beaucoup de violence et ça n'apparaît pas parce que grâce à la psychanalyse et puis aussi pour des raisons privées où j'étais relativement protégée, j'arrive à trouver le moyen de penser ces blessures et de les traverser. Mais je crois que je partage le sort de beaucoup de femmes d'aujourd'hui. C'est très difficile d'être une femme dans le monde moderne, contrairement à ce qu'on pense, à savoir qu'on était propulsée par le féminisme, par la modernité et que les femmes vivent relativement plus facilement aujourd'hui qu'il y a des années. Il y a encore beaucoup de difficultés. C'est ça qui m'importe à dire.
Parce que l'intellectuel est une sorte de monstre et qu'on ne peut pas être galant avec une intellectuelle, par exemple.
L'intellectuel fait peur. Une femme est supposée être amante ou mère, surtout ne pas se mêler de pouvoir, et quand on pense, c'est ressenti comme un pouvoir. Et, ou alors, il faut qu'elle soit un monstre et qu'elle n'ait pas d'autres jeux, ni érotiques, ni maternels. Mais quand on essaye de déployer toutes ces possibilités, c'est supposé, c'est ressenti comme une sorte d'ambition démesurée, et cela fait peur. Mais je pense qu'il faut essayer de continuer.
Lieu de mémoire, la galanterie. Avec Julia Kristeva, Michel Perrault, Théodore Zeldine, Alain Rey, Jacques Hassoun, Mario et Christine, ainsi que les adeptes des thés dansants de la Coupole à Paris. Prise de son, Serge Viguier et Jean-Pierre Zing. Mixage, Laurent Fracchia et Jean-Richard Dufour. Archives sonores de Lina, Emmanuel Jouin. Stagiaire Anne Madelin, une émission de Marie-Christine Navarro, réalisation Marie-Christine Closet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 septembre 1996. Depuis cette diffusion, notez la parution d'un essai publié chez Gallimard, La galanterie française, par Claude Habib.